Bonjour et bienvenue à cette balado qui traite exclusivement d'éducation, de pédagogie et de didactique.
Je m'appelle Marc-André Girard. Bienvenue au rendez-vous pédagogique de l'École branchée. Alors, je suis avec M. Frédéric Yvon, qui est professeur à l'Université de Genève, à la Faculté d'éducation.
De psychologie et des sciences de l'éducation, oui.
De psychologie et des sciences de l'éducation. Merci d'être avec nous, Frédéric.
Bonjour, Marc-André. Merci.
Bonjour. J'aimerais ça, dans un premier temps, si tu nous faisais un petit compte-rendu de ton parcours professionnel et académique.
Alors, je ne sais pas si ça se voit, mais je suis relativement jeune, donc je n'ai pas de grandes années derrière moi. Il est assez court, il faut dire, mon parcours. Mais j'ai commencé par la philo, c'était les premiers intérêts. C'était la difficulté à s'intéresser à quelque chose de précis. Donc, je me suis vraiment un peu éparpillé. Et le philosophe qui, pour moi, était un peu encyclopédique, c'était Aristote. Donc, je me suis beaucoup resté au travail d'Aristote. Parce qu'Aristote, il a développé un champ de savoir... sur l'ensemble des domaines possibles. Donc j'ai commencé par la philo et puis après je me suis aperçu que la philo était un peu trop théorique. Mais peut-être que tu vas me contredire, peut-être que c'est pas toujours trop théorique la philo. Et j'ai eu besoin de me rapprocher du réel. Et pour moi le réel c'est le travail. Donc relativement assez vite, j'ai commencé des travaux, des recherches en psychologie du travail et c'était l'objet de ma thèse. Qui portait plus spécifiquement sur le stress des agents du service commercial train à la gare Paris-Nord. Donc, à mon accent, tu sais que je suis français, même si je travaille à Genève. Qui sont en fait les contrôleurs de train. Quelles sont les situations qui provoquent du stress chez les contrôleurs de train. Donc, on est très loin de l'éducation. Hein, et tu vas me dire, mais comment j'en suis arrivé à l'éducation? Et alors, par le plus grand des hasards, un poste a été ouvert... à l'Université de Montréal, et c'est là où j'ai fait mes classes, véritablement. Je suis devenu professeur, et puis j'ai essayé de développer des travaux auprès des directions d'établissements scolaires. Voilà. Et depuis 2012, j'ai été engagé à l'Université de Genève, comme tu l'as rappelé.
OK, parfait. Maintenant, je vais te poser une question plus précise par rapport à l'éducation. Parce que nos auditeurs sont majoritairement des enseignants ou des directeurs d'école. Donc, la première question que j'aurais envie de te poser par rapport à ton champ d'expertise, c'est de nous parler de l'importance de la pratique réflexive en éducation.
C'est une très belle question. Merci Marc-André de la poser, qui est fort complexe. Je ne suis pas sûr d'avoir toutes les réponses par rapport à cette pratique réflexive et je ne peux que offrir mon point de vue, qui est critiquable et discutable, bien sûr. Alors, évidemment, on pourrait partir du principe que la pratique réflexive en soi, elle est très importante pour le développement professionnel. Et je souscris tout à fait à ce constat, que je lis dans tes yeux d'ailleurs. Je pense qu'on partage un peu cette même position. Néanmoins, j'aurais tendance à émettre une nuance, et peut-être que des collègues ici à l'Université de Montréal me rejoindraient, comme Maurice Tardif, hein, qui est un grand chercheur dans le domaine des sciences de l'éducation, qui va considérer que cette pratique réflexive elle a été investie par un auteur qui s'appelle Schoen, et qu'on parle souvent de réflexion sur l'action. Voilà. Et au-delà de ce programme de combat, on pourrait dire, on a toujours cette difficulté de dire comment j'organise la pratique réflexive. Et c'est un peu là-dessus qu'on essaye de travailler dans le champ qui m'intéresse, qui est donc non seulement l'administration de l'éducation, mais également l'analyse du travail, hein, ce qu'on a développé en ergonomie. Donc c'est comment on accompagne une pratique réflexive. Et l'idée, c'était de ne pas partir simplement d'une évocation de pratique professionnelle, comme on le fait d'habitude, mais plutôt d'utiliser une convocation des pratiques concrètes, insignifiantes, opératoires, anodines, ce qu'on fait de façon très naturelle. Et il nous semble que pour susciter une pratique réflexive, c'est souvent dans les modalités opératoires qu'on a le plus de choses à faire, puisque finalement, est-ce que je cherche à réorienter mon action? Bien sûr, mais en grande partie, la pratique réflexive devrait servir aussi à faire différemment. Donc le comment est important, comment je fais d'habitude et comment je pourrais faire avec d'autres modalités, en s'inspirant de ce que je faisais avant, mais ce que je fais plus maintenant, de ce que font mes collègues. Et donc ce rapport à soi de la pratique flexible, il est médiatisé par un rapport au travail réel, concret, qui est en général pas très regardé, parce qu'on n'y voit pas grand-chose dans ce travail réel. Et il ne semble que pourtant, dans ce travail réel, il y a un continent d'expérience, il y a la subjectivité qui se déploie, il y a le rapport à l'autre qui est très présent, et qu'on peut en faire beaucoup, beaucoup.
Pour ce que je comprends aussi, c'est que à travers les discussions que j'ai eues avec des enseignants, c'est que c'est difficile de s'arrêter pour réfléchir à ce qu'on fait comme travail parce qu'on est toujours dans l'action. Tu sais, tantôt, tu parlais du rapport à l'action, mais ce même rapport à l'action-là peut être un objet de réflexion comme peut être un frein à la réception, à la réflexion.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu proposes, Marc-André. C'est vraiment un bel obstacle. Toi, je suis assez critique par rapport à ces courants de la pratique flexible. D'une part, sur comment on l'organise, c'est ce que je viens de mentionner. Et puis, l'autre chose, et je suis désolé, je vais être un peu radical, c'est quelle place on donne à cette pratique réflexive dans les organisations du travail. Et en effet, le temps de travail des enseignants, on peut le voir, et puis ça existe au Canada, au Québec, en France, en Suisse, on peut parler véritablement d'une intensification du travail. Autrement dit, dans le même temps de travail, je dois faire beaucoup plus d'activités. Alors voilà, on pourrait discuter bien sûr de ce que contiennent ces activités. Il y a l'enseignement, il y a la préparation, il y a l'évaluation, il y a tout le travail qu'on fait aussi pour l'organisation, pour le fonctionnement de l'institution. Et puis, la question que tu pourrais me poser, c'est, oui, mais la pratique réflexive dans tout ça, est-ce que ça fait partie du travail? Et moi, j'aurais tendance à te répondre que oui. Je pense que la pratique réflexive, ça fait partie du travail. On prend soin de soi en réfléchissant sur ce qu'on fait et ce qu'on pourrait faire différemment. On prend soin des collègues parce que cette pratique réflexive, elle va énerver, elle va alimenter la réflexion du collectif. On prend soin du travail et on prend soin de l'institution et de l'organisation. Donc je trouve, mais voilà, je pense que c'est un discours qui est difficile à entendre, que les systèmes éducatifs ne prennent pas assez soin du travail et pas assez soin du rapport au travail et de ce qu'on pourrait faire à partir du travail. Et donc tu vois la solution, c'est est-ce qu'on ne peut pas revoir le temps, la gestion du temps, pour que dans une semaine normale, mais toutes les semaines, on ait du temps pour réfléchir sur ce qu'on a fait. Alors, avec différentes modalités, hein, soit avec une pratique évoquée, soit parce que j'ai des traces de mon activité, ma préparation. J'ai pris des notes quand j'ai fait mon cours ou après mon cours. Et je voudrais revenir sur qu'est-ce que je ferais différemment maintenant que j'ai fait ce cours. Et le problème, enfin, je ne sais pas si les enseignants le vivent quelquefois, c'est finalement, on répète une leçon d'une année à l'autre et puis on sait qu'elle ne marche pas. On sait qu'elle ne marche pas. Mais on n'a pas eu le temps de s'asseoir, de se poser, de regarder comment je pourrais l'aménager pour l'améliorer. Ma planification, je vais la reprendre telle qu'elle. Et du coup, je vais être prisonnier d'une répétition. Alors comment je répète sans me répéter? Comment je répète en réinventant pour être plus à l'aise? Et puis cette pratique flexible, donc je devrais l'avoir dans mon organisation du travail. Mais c'est vrai que c'est plus intéressant si j'ai un collègue sans jugement, avec une belle compréhension, un beau respect de ce que j'ai essayé de faire, m'écoute et me pose des questions pour essayer de voir comment je pourrais... peut-être que... Là aussi, c'est une expérience qu'on fait assez... On est très dur en éducation, je trouve, envers nous-mêmes. On est très, très dur. C'est drôle, c'est comme si on avait complètement intériorisé l'évaluation qu'on porte sur notre travail. Comme le travail n'est pas vraiment valorisé, malheureusement, auprès du public, auprès des institutions, même des fois de nos supérieurs, on a l'impression que ce qu'on fait, ce n'est pas bon. Et moi, je trouve que c'est toujours une surprise d'observer un enseignant, de voir tout ce qu'il déploie comme richesse, toute cette intervention, tout ce qu'il essaye de faire malgré tout, avec toutes les difficultés qu'il a, puis de sortir de la classe et me dire « Oh, je n'ai pas été bon ». Ben non, comment ça, t'as pas été bon? Il y a plein de choses qui sont passées. Regardons dans le détail. Et dans le détail, on reprend confiance en soi dans la manière dont on a pu travailler. Puis oui, c'est pas facile, on fait des choix. Tout n'est pas écrit à l'avance, c'est pas une mécanique. Si c'était une mécanique, on s'ennuierait. Mais... Et du coup, je pense qu'on devrait avoir plus de temps. On pourrait dire que c'est un luxe. Mais je trouve qu'au contraire, prendre soin de ce qu'on a fait, de revoir ce qu'on a fait, de le partager avec des collègues, eh bien, c'est une question que tu voulais poser, mais c'est un facteur de santé bien sûr psychologique, c'est un facteur d'efficacité et puis un facteur de santé organisationnelle. Alors la question qu'on peut poser maintenant, c'est est-ce que les organisations du travail sont prêtes à aménager du temps pour qu'on puisse se parler et réfléchir ensemble? Alors là, je ne vais rien inventer, mais au Québec, on l'a très bien compris. Et il y a tout ce courant des communautés d'apprentissage professionnel qui est magnifique, qui cherche à aménager alors sur le temps de travail, dans les journées pédagogiques, un temps où on peut travailler, non pas sur ce qu'on devrait faire, mais sur ce qu'on arrive à faire. Essayons de partir des pratiques concrètes et réfléchissons de ces pratiques concrètes. Et donc, je pense que c'est un cadre qui est fort intéressant pour essayer de grandir ensemble, d'accroître ensemble, pour se faire du bien également. Et puis, alors on va dire que c'est idéal, c'est utopique, ce qu'on propose ou ce que j'imagine, mais il suffit de regarder un petit peu ailleurs, dans les autres systèmes éducatifs.
Mais tu parlais
en Finlande, au Japon, excuse-moi de te couper, mais ça existe. C'est comme ça qu'on travaille. Pardon, vas-y.
Mais tu parlais de santé. Mm-hmm. Quelle lecture tu fais de la santé en général des intervenants en éducation, en l'occurrence les enseignants ou les cadres scolaires?
C'est une vaste question, c'est une très belle question, une vaste question. Y a de très beaux travaux. Ici au Québec, hein, je trouve qu'on connaît peut-être ou pas assez, ceux de Luc Brunet, d'André Savoie, sur la santé au travail. Et ce qu'on constate, il me semble, c'est la question de l'épuisement professionnel, qui est un problème. Alors bien sûr, le corps s'épuise, on est fatigué. Mais ce n'est pas la santé vraiment physique qui préoccupe, c'est la santé psychologique des enseignants. Et elle se manifeste souvent sous forme de ce qu'on appelle le burn-out, autrement dit un épuisement émotionnel, j'y arrive plus. J'aimais ce métier, mais j'y arrive plus, je ne trouve plus l'énergie pour pouvoir m'investir. Ça, c'est un facteur important. Alors évidemment, il faut trouver les sources, pourquoi on s'épuise au travail. Alors il y a plusieurs éléments qu'on pourrait dire, c'est bien sûr parce que c'est un travail qui prend beaucoup en termes d'énergie, en termes d'émotion, je m'investis beaucoup pour être en rapport aux élèves. J'ai un travail sur moi-même, de présentation de soi, d'investissement, de croyance aussi. Et puis, c'est une expérience qu'on fait tous, je pense, c'est qu'on croit beaucoup à ce métier au début. On investit beaucoup, on donne beaucoup, puis on reçoit relativement peu en reconnaissance. Hein, on est dans la classe, sauf dans certains systèmes éducatifs, peut-être au Québec, mais il y a très peu de collègues qui nous disent, viennent nous voir dans la classe pour nous dire beau boulot, quoi. Vraiment, c'est une belle leçon que tu as faite. Ou le directeur d'école qui descend de son bureau et qui nous dit ce que tu fais, c'est très utile pour nous, pour l'éducation au Québec. Donc cette reconnaissance, là, j'invente rien, c'est Christophe Dejour hein, qui a proposé ces deux aspects du jugement de reconnaissance, jugement de beauté, d'utilité. On l'a très peu. Et puis, c'est une expérience que je mentionnais qui est assez courante, c'est 10 ans après. Tu vois, tu te promènes dans la rue, puis tu vois un élève qui dit « Ah, oh, monsieur, vous avez transformé ma vie. » Vraiment, toi, tu n'en souviens plus. Enfin, tu as vaguement l'idée de quelqu'un qui était au fond de la classe, mais il te dit ça. Et tu vois, il faut attendre 10 ans avant que tu aies enfin cette reconnaissance sur un retour sur l'investissement. Tu as travaillé à la source, et puisque ça va devenir, il faut attendre 10 ans avant que la fleur s'épanouisse. Et ce temps d'attente, il peut être épuisant. Parce que tout ce que je fais pendant ces 10 ans-là, il faut que j'ai l'illusion ou la croyance que ça va changer quelque chose. Et la confirmation, je l'ai très tard. Et donc, il y a un facteur très important, c'est évidemment l'épuisement professionnel, la perte de satisfaction au travail. J'ai l'impression que je ne sers pas à grand-chose. Et puis, le pire du pire, c'est évidemment de traiter les élèves comme des monstres, parce que les causes de ma souffrance, c'est les élèves. Et oui, c'est eux qui me rendent la vie
impossible. Comment est-ce qu'on peut éviter d'en arriver là?
Alors justement, je pense que la question initiale que tu posais, c'est la place du collectif et la place de la pratique réflexive. Comment on peut arriver à ça? Puisque finalement, si je suis un processus un peu solitaire, où je suis en confrontation directe avec des élèves et où j'ai peu de reconnaissance, où je suis obligé un peu de les pousser dans le retranchement, et puis ils n'aiment pas ça, et puis on a des tensions, le risque, c'est le désinvestissement, le détachement. Il y a eu un beau film dont je ne me souviens plus, je me souviens de l'acteur, mais pas du réalisateur, mais qui montre ce processus, hein, que donc André Savoie et Luc Brunet on met en évidence, pour ne pas que le travail nous fasse souffrir, on se met en retrait. Donc on essaye d'automatiser un peu ces gestes, ces journées, pour traverser cette journée, cette semaine, ces mois, l'année scolaire. Et du coup, évidemment, on n'a pas du plaisir à ce qu'on fait, on a besoin de trouver d'autres sources d'activité, pour la musique, du sport, pour pouvoir s'épanouir. On perd en efficacité, hein, c'est clair, moins investi et plus c'est difficile. Alors voilà, la réponse, elle est, on parle beaucoup de gestion du stress. Et je ne voudrais pas être trop critique, hein, en même temps les Français le sont, et puis je sais. Donc je me le permets. C'est vrai qu'on a souvent une gestion du stress qui est individuelle. Les gens ne vont pas bien, donc ils vont voir un psychologue. Je suis psychologue, je n'ai vraiment rien contre cette profession. Et puis, il faut des psychologues, bien sûr, pour nous aider, pour nous écouter, pour faire de la remédiation, pour reconstruire un peu nos priorités. C'est essentiel. Une fois qu'on est en bout de ligne et qu'on est épuisé, on a besoin, bien sûr, d'un secours de ce type. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut avoir simplement une gestion individuelle? Autrement dit, les gens qui sont malades, c'est parce qu'ils sont fragiles. Voilà. C'est un révélateur. Ils sont face à une situation difficile, ils craquent. Ben, c'est eux, c'est leur personnalité. Moi, je résiste un petit peu à ce diagnostic et je pense qu'on rend malade les personnes. Donc cette gestion individuelle, elle me semble totalement incomplète. Ce qui m'intéresse, c'est au contraire comment au niveau de l'organisation, on peut prendre soin des personnes. Comment on peut aménager les conditions de travail pour faire en sorte qu'il y ait un meilleur vivre, un meilleur bien-être au travail. Donc la source, moi je la cherche plutôt du côté des conditions de travail, de l'organisation du travail. Et il y a du coup deux sources, enfin deux aspects. Hein. C'est les conditions de travail, et ça c'est le domaine de l'ergonomie qui m'a beaucoup inspiré, enfin sur lequel qui est une lecture toujours constante. Ergonomie plutôt de langue française, ergonomie de l'activité, qui s'intéresse à l'aménagement des conditions de travail, hein, adapter les conditions de travail à l'homme, plutôt que l'homme soit obligé de s'adapter aux conditions de travail qu'on lui donne. Partons du départ, mettons l'homme au centre, enfin l'homme et la femme bien sûr, au centre, et essayons de penser les conditions de travail en fonction de ce qu'on est, de nos caractéristiques physiologiques bien sûr, des rythmes qu'on peut endurer, et puis aussi des besoins liés à la profession et au métier qu'on a. Voilà. Donc bien sûr les conditions de travail. Et puis de ce point de vue-là, pour vraiment le souligner, il y a l'équipe de l'UQAM, le Symbiose, qui fait de très bon travail de ce côté-là. Et puis il y a l'autre dimension, c'est l'organisation du travail. Ça, c'est les travaux de deux jours que je mentionnais juste avant. L'organisation du travail, on s'est rendu compte qu'elle est délétère. Qu'il y a certaines formes d'intensification qui rendent malades les personnes. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois comment on adapte les conditions de travail, mais aussi dans quelle organisation du travail on place les gens. Voilà. Et est-ce qu'il y a des organisations du travail qui sont plus difficiles, plus exigeantes, qui compriment, qui enferment les individus, qui les étouffent? Et est-ce qu'il y a des organisations du travail qui permettent l'épanouissement de chacun? Et il me semble que oui, on peut le poser. Et cette organisation du travail, elle est à inventer. Hein. On parle bien sûr du taylorisme, du fordisme, c'est la manière un peu classique de penser l'organisation du travail. On est encore très dépendant, on a l'impression qu'on est dans une ère post-taylorienne, et je pense qu'on est plutôt dans une ère néo-taylorienne. Je ne voudrais pas le dire, et puis il ne faudrait pas que je sois enregistré, mais... Ah, c'est le cas, zut. Bon. Mais il me semble que l'école, elle est un peu héritière, malheureusement, de l'organisation taylorienne, où on spécialise, hein, au primaire, au secondaire, et puis chacun est dans sa classe, comme sur son poste de travail, comme sur la chaîne de production. Il y a un parallèle qui est un peu choquant, révoltant, mais quand même... Il y a une sorte d'homologie qui est assez étonnante. Donc les modèles, ils sont inventés. Alors on peut regarder du côté du Japon, du toyotisme, avec une sorte de responsabilité collective. Mais là, du côté de la santé, je pense qu'on n'est pas tout à fait dans le cahier des charges, parce que la mort subite au travail, ben, c'est justement dans ces organisations-là qu'on la trouve. Donc le modèle, il est à inventer. Et puis, tu l'auras compris, hein, si on part des pratiques et du travail réel, eh ben, c'est essayer de réfléchir ensemble. Autrement dit, s'il faut inventer une nouvelle organisation du travail, ce n'est pas être un théoricien qui le fait. C'est ensemble, les professionnels, qui sont les experts de leur travail, comment nous, on réfléchit ensemble pour essayer d'imaginer une adaptation. Comment faire pour qu'on soit plus efficace, en meilleure santé, et que l'organisation du travail ressemble et réponde aux défis qui sont ceux de maintenant. Et là, je pense que l'on peut le faire qu'en réunissant des experts, des professionnels, dans une école, simplement. C'est des formes d'intervention qui me plaisent beaucoup. Le chercheur, il n'a pas les solutions. On réfléchit ensemble. Le chercheur met à la disposition des modèles, une démarche, il met en place un cadre, et on réfléchit ensemble sur comment on pourrait faire autrement.
Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que, d'une part, il y a une critique des systèmes d'éducation, je dirais, occidentaux. Mais ce que j'aime, c'est que le discours s'adresse autant aux directeurs qu'aux enseignants. Il y a une responsabilité qui est partagée. Oui, il y a une question de l'organisation du travail. Et quand je dis l'organisation du travail, je parle aussi du milieu qui offre ce cadre de travail-là. Mais aussi, le professionnel qui est à l'intérieur a la responsabilité de réfléchir sur sa pratique. Donc, je vois que la santé au travail, en réalité, en éducation, appartient à l'individu comme à l'organisation. Mais merci beaucoup.
Merci beaucoup, Marc-André. Merci beaucoup.